Audiolib présente La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, lu par Sophie Duez. À Mathilde, à ma fille et à mon fils.
So, tell me something, Miss Thelma. How is it you ain't got any kids? I mean, God gets you something special. I think you ought to pass it on.
Ridley Scott, Thelma et Louise. Première partie, Mon roi. Chapitre 1, 10h32.
Louis, c'est l'heure. Allez, je ne le répète plus, s'il te plaît, lève-toi et habille-toi, on va être à la bourre. Il est déjà 9h20.
C'est à peu près comme ça qu'a commencé ce qui allait devenir la pire journée de toute mon existence. Je ne le savais pas encore, mais il y aurait un avant et un après, ce samedi 7 janvier 2017, 10h32. Pour toujours, il y aurait cet avant, cette minute précédente que je désirerais figer pour l'éternité. Ces sourires, ces bonheurs fugaces, ces photographies gravées à jamais dans les replis sombres de mon cerveau. Pour toujours, il y aurait cet après. C'est pourquoi, c'est si seulement. Ces larmes, ces cris, ce mascara hors de prix sur mes joues, ces sirènes hurlantes, ces regards remplis d'une compassion dégueulasse, ces soubresauts incontrôlables de mon abdomen refusant d'accepter. Tout ça, bien sûr, m'était alors inaccessible, un secret que seuls les dieux, s'il en existait, ce dont je doutais fort, pouvait connaître. Que se disait-elle alors, à 9h20, ces divinités? Un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu es sûr de toi? Pas forcément, mais pourquoi pas? C'est vrai, après tout, pourquoi pas, ça ne changera pas la face du monde. J'étais loin de tout ça, loin des dieux, loin de mon cœur. J'étais juste moi, à cet instant précis, si proche du point de basculement, de rupture, de non-retour. J'étais moi, et je pestais contre Louis qui décidément ne faisait aucun effort. Je me disais alors que ce gosse me rendait dingue. Cela faisait une demi-heure que je m'échinais à l'extirper de son lit, mais rien n'y faisait. Nous avions rendez-vous à midi avec ma mère pour notre brunch, mon calvaire mensuel. Et j'avais prévu de passer entre-temps boulevard Haussmann pour m'acheter ces escarpins rouge sang sur lesquels je fantasmais depuis le début des soldes. Je voulais les arborer lundi, lors de la réunion avec le Big Boss d'Hégémonie, le groupe de cosmétiques pour lequel je travaillais nuit et jour depuis une quinzaine d'années. Je dirigeais une équipe de 20 personnes dévouées à la noble cause du développement des publicités et des innovations d'une marque de shampoing qui enlevait jusqu'à 100% des pellicules. Le « jusqu'à » signifiait qu'une testeuse sur les 200 mobilisées avait vu sa crinière entièrement débarrassée de ses désquamations. L'une de mes fiertés de l'époque était d'avoir obtenu, après d'âpres batailles avec le service juridique d'Hégémonie, d'utiliser cette allégation. Cruciale pour les ventes, pour mon augmentation annuelle, mes vacances d'été avec Louis et mes nouveaux escarpins. Après quelques vagues grognements, Louis s'est décidé à obtempérer, à enfiler un jean bien trop serré et à la taille bien trop basse, s'est passé un coup d'eau sur le visage, a pris 5 minutes pour savamment décoiffer ses cheveux, a refusé de mettre un bonnet malgré la température de ce matin glacial, a grommelé quelques bribes de conversation incompréhensibles mais dont je connaissais la teneur « Mais pourquoi je dois venir avec toi ?» a chaussé ses lunettes de soleil, empoigné son skateboard, une planche sale, taguée sur toute sa surface et pour laquelle je devais acheter des roues de compétition tous les 4 matins, mis sa doudoune ultralight Uniqlo rouge, attrapé un paquet de biscuits fourrés au chocolat tout en acceptant d'engloutir une compote en gourde comme lorsqu'il avait 5 ans, et a enfin appelé l'ascenseur. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 10h21. Parfait. Nous avions encore le temps de réaliser mon programme millimétré. J'avais prévu large, le rituel de lever de Monseigneur Louis le Grand ayant une durée totalement aléatoire. Il faisait un temps magnifique, un ciel bleu d'hiver sans nuages. J'ai toujours aimé les lueurs froides. Je n'ai jamais trouvé ciel plus bleu et plus pur que lorsque j'étais en déplacement professionnel à Moscou. La capitale russe est pour moi la reine du ciel d'hiver. Paris avait revêtu ses airs moscovites et nous lançait des œillades éblouissantes. Une fois sortis de notre appartement du 10e arrondissement, Louis et moi avons commencé à longer le canal Saint-Martin en direction de la gare de l'Est, slalomant entre familles en balade et touristes hypnotisés par le spectacle d'une péniche passant l'écluse du pont Eugène Varlin. J'observais Louis, qui cavalait devant sur sa planche à roulettes. J'étais fière de ce petit bout d'homme qu'il était en train de devenir. J'aurais dû le lui dire. Ces pensées-là sont faites pour être exprimées, sinon elles ne servent à rien. Mais je ne l'ai pas fait. Ces derniers temps, Louis a beaucoup changé. Une poussée de croissance propre à son âge l'a fait passer du physique d'un petit garçon frêle à celui d'un adolescent de taille honorable, un brin de barbe se dessinant sur ses joues toujours pouponnes, encore dépourvues de boutons. Une belle allure en construction. Tout cela allait trop vite. Je me suis revue un instant déambulant le long du quai de Valmy, une poussette bleu pétrole dirigée de la main droite, mon téléphone dans la main gauche. Je crois bien que cette vision m'a fait esquisser un sourire. Ou bien l'ai-je inventé a posteriori. Ma mémoire me fait défaut. Il est très difficile de me souvenir de mes pensées durant ces instants pourtant tellement importants. Si seulement je pouvais revenir en arrière de quelques minutes, je serais plus attentive. Si seulement je pouvais revenir en arrière de quelques mois, de quelques années, je changerais tellement de choses. J'ai entendu retentir le dernier son de The Weeknd que Louis avait installé comme sonnerie sur mon smartphone. C'était JP. Merde. Pourquoi mon supérieur hiérarchique m'appelait-il un samedi matin? Bien sûr, c'était déjà arrivé. On ne peut pas travailler pour une entreprise comme Hégémonie sans avoir à gérer quelques urgences. Quand j'y pense désormais, quand j'entends quelqu'un prononcer le mot « urgence », cela a une toute autre connotation. Plus jamais je n'utiliserai un tel terme pour parler d'une présentation qui doit être bouclée, d'un test consommateur qui doit être lancé, d'un flacon dont le design doit être validé. De quelle urgence parle-t-on au juste? Qui est en danger de mort? Cela, je ne le savais pas à cet instant précis. Je me demandais seulement quelle urgence JP pouvait bien avoir à me communiquer, et je pressentais que cela avait un lien avec la réunion de lundi. Urgence absolue, donc. Vitale. J'ai décroché sans hésiter, remarquant à peine Louis qui avait ralenti et qui s'était positionné à mes côtés, souhaitant visiblement me parler. Je lui ai fait signe que j'étais au téléphone, est-ce qu'il ne le voyait pas? Il a parlé dans sa barbe naissante, marmonnant que c'était important, je crois, mimant l'importance du sujet. Je ne saurais jamais de quoi il voulait me parler. Je suis certaine que mes dernières pensées à l'égard de mon fils ont été des pensées négatives. Quelque chose ayant trait à son besoin constant d'attention, au fait de ne pas pouvoir avoir une minute à moi, à son égoïsme d'adolescent, à mon besoin de respirer un peu. Merde ! Je crois que le dernier mot qui s'est formé dans ma tête concernant ce petit être, la chair de ma chair, que j'ai bercé des milliers d'heures, avec lequel j'ai chanté des milliers d'heures, qui m'a procuré tant de rire, de fierté et de joie, le dernier mot que j'ai prononcé mentalement dans mes méninges rouillées, c'est bel et bien ce putain de mot de cambronne. Quelle honte. Quel souvenir injuste. Louis a soufflé bruyamment, a saisi le casque audio rouge qui sommeillait jusque-là autour de son cou, l'a enfoncé sur son crâne d'un geste trop appuyé, a éructé que de toute façon c'était toujours la même chose avec moi, qu'il n'y en avait que pour mon boulot, puis il a accéléré la poussée sur sa jambe droite et lancé le skate sur le trottoir en pente. Si je n'avais pas été en communication avec JP, l'urgence était bien un problème de diapositive PowerPoint à refaire, j'aurais eu un réflexe de mère, le genre qui nous fait crier « Ralentis, tu vas trop vite !» et qui exaspère le moindre enfant ayant dépassé la maternelle. Le genre qui ne sert à rien en théorie, mais qui en pratique peut toujours parvenir à éveiller une conscience à demi assoupie. Le cri est resté dans ma tête. Il n'est pas très bien vu chez Hégémonie d'avoir des enfants, même si la politique officielle est claire. Hégémonie est pour l'égalité homme-femme, hégémonie investie pour le succès des femmes dans la société. Il y a toujours un gouffre entre la théorie, la politique affichée, et la pratique, cet autre visage d'une même organisation, ces non-dits qui aboutissent à un taux de femmes dans les comités exécutifs des grands groupes ridiculement bas. Depuis toujours, je m'étais battue pour accéder à ces hauts postes. Il était donc hors de question d'afficher une quelconque fibre maternelle en pleine conversation de travail, même un samedi, même à 10h31. Alors que JP me décrivait mollement les modifications à effectuer dans la journée de dimanche, je gardais un œil distrait sur Louis qui décidément allait trop vite. J'ai noté son casque vissé sur les oreilles et je me rappelle distinctement avoir formulé l'espoir qu'il n'ait pas poussé le son trop fort et qu'il ait pris conscience de sa vitesse. J'ai secoué la tête en me disant qu'il était grand maintenant, qu'il fallait que je cesse de m'inquiéter à tout bout de champ pour lui, pour tout, pour rien, surtout pour rien. C'est incroyable toutes les pensées qui jaillissent dans l'espace de quelques secondes. C'est incroyable à quel point quelques secondes peuvent ensuite s'ancrer douloureusement dans un cerveau. Dernier coup d'œil à mon écran de smartphone, il est 10h32. Je me dis qu'il faut que je raccroche avec JP d'ici 3 minutes maximum car nous sommes proches de la station de métro. J'entends un bruit sourd qui me fait penser à la sirène d'un paquebot en détresse. C'est un camion. Je redresse la tête et le temps se fige. Je ne suis qu'à 100 mètres, mais la rumeur des passants est tellement forte que j'ai l'impression d'être déjà sur place. Mon téléphone se brise sur le sol. Je hurle. Ma jambe se tord. Je tombe, me relève, ôte mes stilettos et cours comme je n'ai jamais couru. Le camion s'est arrêté maintenant. Je ne suis pas la seule à hurler. Une dizaine de personnes qui étaient attablées au soleil, une belle matinée d'hiver, se sont dressées. Un père cache les yeux de son fils. Quel âge a-t-il? 4, 5 ans probablement. Ce genre de scène n'est pas pour lui. Même dans les films, ce genre de scène n'est jamais montré. À quiconque. On peut tout au plus la suggérer. Un peu de pudeur dans ce monde de brutes, s'il vous plaît. Je m'approche, je hurle de nouveau, je me jette à terre, je sens que je m'écorche les genoux, mais je ne sens pas la douleur. Pas celle-ci, en tout cas. Louis, 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 Louis. Mon amour, ma vie. Comment décrire l'indescriptible ? Un témoin de la scène a plus tard employé le terme de louve, des cris de louve que l'on éventre. Je me bats, je griffe le sol, mon corps tremble, je tiens la tête de Louis dans mes mains. Je sais qu'il ne faut pas le toucher, qu'il ne faut rien déplacer, mais je ne peux pas. Toujours ce même écart entre la théorie et la réalité. Je ne peux me résoudre à le laisser sur le sol sans rien faire. Pourtant je tiens sa tête. Et je ne fais rien d'autre qu'attendre en pleurant, vérifiant sans cesse son souffle. Respire-t-il ? Il respire. Il ne respire plus. Il respire de nouveau. Les secours arrivent dans un temps record. Un pompier me prend en charge, ou plutôt tente de m'arracher au corps de Louis. Je le gifle. Je m'excuse. Il me sourit. Je me souviens de tout. De ses gestes fermes et doux à la fois, de son nez disgracieux, de sa voix rassurante, de ses mots tellement convenus, de l'ambulance qui s'éloigne. Je capte quelques bribes. Urgence pédiatrique, hôpital Robert Debré, soins intensifs. Ça va aller, madame. Non, ça ne va pas aller. Je vais vous accompagner. Je m'effondre. Il me retient. Mes muscles tendus à l'extrême depuis l'accident viennent de lâcher. On m'installe sur une chaise du café ensoleillé. Mon corps ne répond plus. Mes boyaux se tordent. Je vomis mon petit déjeuner sur la table de ce bar hipster qui s'est vidé en quelques instants. Je m'essuie la bouche, bois un verre d'eau et relève la tête. Rien n'a changé autour de moi. Le ciel est toujours aussi bleu, aussi pur. Je regarde ma montre, brisée elle aussi, cadran fissuré, aiguille figée, témoin immobile. Il est toujours 10h32.